Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le 251e numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Alors que nous sortons d'une semaine un peu folle, lors de laquelle les propositions musicales en tout genre se sont succédées et parfois même percutées, il y a des périodes comme ça au cours d'une saison qui obligent à faire des choix cornéliens certains soirs. La semaine à venir est un peu plus calme, sans être creuse, loin s'en faut. Pour revenir sur les événements passés et vous annoncer les prochains, j'accueille aujourd'hui mes amis Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, également cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Tous les trois, nous avons le plaisir de recevoir une invitée d'honneur, la violoniste Marie Cantagril, qui vient pour la première fois à Mélomanie. Nous ferons mieux connaissance avec elle en seconde partie d'émission. Dans l'immédiat, nous allons revenir sur la copieuse actualité musicale récente, Retour arrière.
Mélomanie, Retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les trois, donc merci d'être au rendez-vous pour parler d'abord d'opéra et de Boris Godounov, dont la dernière représentation a eu lieu dimanche après-midi à l'Opéra National du Capitole. Il y en a eu 5 en tout, toutes données à guichet fermé ou presque. Grand succès public pour cette nouvelle production mise en scène par Olivier Py. Alors Robert, vous y avez assisté et je crois que vous l'avez beaucoup aimé à tout point de vue.
Effectivement, alors vous avez raison de souligner que ces spectacles sont donnés à guichet fermé. À Toulouse, rien n'est plus étonnant, mais c'est une œuvre qui n'attire pas fondamentalement le public. Boris Godounov, elle n'est pas très connue, il y a plusieurs versions. Bon, enfin bon, il n'empêche qu'au Capitole, comme vous le dites très justement, les spectacles sont donnés à guichet fermé. Alors, c'est la version de 1869, c'est-à-dire la version d'origine, la première écrite par Modeste Moussorgski, et celle donc qui ne comporte pas l'acte dit polonais, c'est-à-dire la grande romance politico-amoureuse entre Marina et le faux Dimitri, qui sera écrite ensuite à la demande de la censure de l'époque, qui trouvait qu'il n'y avait pas de rôle féminin assez important dans la première version, donc dans une nouvelle version que Moussorgski écrira pour 1872. Ensuite, c'est une œuvre qui a été prise par des compositeurs qui ont trouvé que l'orchestration était beaucoup trop dure, difficile, presque trop moderne, on va dire, pour cette époque-là, et dont l'ont embelli, et ce sont des versions qui ont fait florès, puisqu'elles étaient signées Rimsky-Korsakov. Alors là, on croit entendre Scheherazade, on n'entend plus Boris Godounov. Enfin. C'est très beau, c'est pas ce que je veux dire. Mais Shostakovich également s'est emparé de cette partition, il a remodifié, etc. Bon, bref, et d'autres d'ailleurs, mais on va pas les citer tous. Le Capitole a décidé que ça serait la version d'origine, celle de Moussorgski, et comme il a bien fait. Donc, c'est pas découpé en plusieurs actes, c'est découpé en plusieurs tableaux. Et cela se joue sans entracte. Et c'est un opéra qui vous prend à la gorge dès le début et qui vous laisse complètement patois, parce que c'est un opéra, grâce au thème bien évidemment, mais surtout grâce à cette musique qui vraiment ne vous laisse pas 2 secondes de respiration. Il y a un personnage central dans cet opéra, c'est le chœur. Alors, soit c'est le chœur des boyards, vous savez, les boyards, c'était les nobles à cette époque-là, soit le chœur du peuple, qui est très important également. Alors, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, cette production a été confiée par Christophe Gristy au metteur en scène un peu poil à gratter français qui s'appelle Olivier Py, dont on sait qu'il est capable de choses qui vous laissent littéralement sur le flanc, comme le dialogue des Carmélites qu'on a eu à Toulouse, mais d'autres qui peuvent peut-être vous bousculer un peu plus, par exemple la Gioconda qu'on a eue à Toulouse avec une scène d'orgie absolument insoutenable. Et on se doutait bien que les derniers événements géopolitiques qui ont lieu encore en Europe de l'Est n'allaient pas le laisser indifférent. Évidemment, la chose s'est produite et en fait, Olivier Py a souhaité montrer l'éternité de l'histoire russe en définitive et cette véritable passion qu'a le peuple russe pour ses gouvernants qui ont toujours été des tyrans. que ce soit les tsars, que ce soit Staline, que ce soit Poutine aujourd'hui, c'est tout sauf des démocrates, c'est clair et net. Mais le peuple, au-delà de tout ça, les a toujours vénérés, adorés, adulés. Et donc, c'est la ligne directrice de la mise en scène d'Olivier Py. Il nous montre par exemple les brouillards dans des magnifiques décors qui sont signés Pierre-André Weitz, qui est le grand
complice.
Ils sont complices depuis 35 ans. Ouais. Voilà, ils ne font jamais rien l'un sans l'autre. Et donc, il y a d'un côté le palais des brouillards qui est tout en or massif, qui est somptueux. Et d'un autre côté, il y a des immeubles que l'on peut voir en Russie aujourd'hui et qui sont en béton, de véritables cages à lapins et qui, évidemment, sont les immeubles qui abritent...
Ce qu'on appelle l'architecture stalinienne.
Voilà, c'est ça exactement, Eric. Et tout ça, Pierre-André Weitz nous le montre avec des costumes, mais vraiment pour les brouillards... somptueux, évidemment, pour les paysans c'est autre chose, pour le peuple. Bon, la mise en scène est très fluide, alors bon, à un moment, il y a une grande fresque qui descend et qui nous montre Poutine face à Staline en train de se sourire mutuellement, et puis il y a un tableau évidemment qui a fait sourire le public, le rideau se lève, il y a une grande table en marbre blanc, d'un côté il y a Poutine, oui Poutine évidemment, mais c'est Boris Godounov bien sûr, qui reçoit le prince Chouïski et tout le monde, évidemment, n'a pas pu faire l'économie de penser à notre président Macron. Voilà.
Oui, qui se retrouvait au bout de la table,
voilà.
Très loin de son interlocuteur, Vladimir Poutine.
Voilà, exactement. Bon, ceci mis à part, alors c'est pas un clin d'œil, parce que c'était très réfléchi, cette histoire-là, nous montre l'éternité du pouvoir, de cette forme de pouvoir autoritaire et, disons-le, de pouvoir tyrannique. Tout ça, ça a été très bien fait, très très bien fait, et ça a été largement salué par le public, il faut le dire.
Donc il n'y a pas eu,
De
contestation, si on non, peut non. dire, manifeste à la fin, voire pendant les productions, comme ça peut arriver parfois.
Oui, absolument. Ensuite, il y a la distribution. Alors là, la distribution, c'est une distribution nombreuse et qui est faite de prise de rôle. Et en particulier, bon, vous le savez, je crois que je l'avais annoncé la dernière fois, Mathias Goerrn, qui devait prendre le rôle de Boris au Théâtre du Capitole,
a déclaré forfait
pour des raisons de santé. Et donc Christophe Christy a dû trouver un baryton basse et il est allé en repérer un dans la troupe d'opéra de Hambourg qui s'appelle Alexander Roslavet. Je sais pas si on prononce la c'est la fin, mais peu importe, il est indiqué. Et c'est une très belle découverte. Ce jeune baryton basse découvrait le rôle, enfin découvrait façon de parler,
bon,
évidemment.
Russe, ben, si
alors, il est biélorusse,
biélorusse
exactement. Oui. Mais il a été magnifique. Il a une voix très imposante. Il a un charisme sur scène absolument extraordinaire. Vraiment, un Boris est né ce soir-là, indiscutablement. À côté, le ténor roumain, alors tout, je le répète, tout, c'était des prises de rôle. C'est quand même important à souligner. Donc c'est un vrai challenge pour un directeur de théâtre. Mais encore une fois, le challenge a été réussi. Le ténor roumain, Marius Bianchu, chante le prince Chouïski. Alors on le connaît, on l'a déjà eu au Capitole, oui. Cet organe lumineux qui est magnifique. On retrouvait le baryton russe Mikhail Timoshenko, que lui nous connaissons bien également. Non seulement parce qu'il a chanté Marcello de la Bohème en 2022, mais également parce qu'il a donné un midi du Capitole absolument somptueux. Et alors, bon, voilà, je sais que nous allons le revoir au Théâtre du Capitole assez rapidement et je m'en réjouis parce que c'est vraiment l'une, entre guillemets, des grandes prises de Christophe Christy pour sa troupe virtuelle du Capitole. Ensuite, il y a le Pimen de Roberto Scandiuzzi, qu'on ne présente plus, évidemment, qui chantait son premier Pimen, lui qui a chanté souvent Boris. Et il est mais stupéfiant. En plus, il semble que l'on entende un organe russe chanter. C'est absolument extraordinaire. Il y a le ténor espagnol Ayram Hernandez, que l'on connaît également, qui lui avait la responsabilité du double rôle, dont le faux Dimitri, le vrai Grigori, voilà, oui. Dont son rôle était un peu écourté, mais il a très très bien fait. Ensuite, il y a les deux voyous de service, les moines un peu picaresques, si l'on peut dire, Varlam et Misail. Donc le premier, c'est une basse russe, c'est pas Yuri Kissin, et l'autre, on le connaît bien, c'est un ténor français, c'est pas Fabien.
Excellent.
Excellent, vraiment, vraiment extraordinaire. Ensuite, il y a le Suédois Christopher Lundin, qui lui avait une tuneuse scène extraordinaire, d'autant qu'il chantait le rôle de l'innocent. Donc vous savez, l'innocent, c'est un rôle un peu difficile, mais ces gens-là en Russie étaient sacrés parce que tout le monde pensait que c'était des fous de Dieu. Et donc dans cette fameuse scène dans laquelle il rencontre Boris vers la fin de l'ouvrage, et Boris lui demande de prier pour lui, parce qu'il sent sa fin prochaine, et l'innocent lui dit « Non, je ne prierai jamais pour un régicide ». C'est une scène extraordinaire. Et donc, c'est Christopher Lundin, un ténor suédois. Ensuite, il y a des rôles un peu plus secondaires, mais bon, enfin, mais il y a très peu de rôles féminins, effectivement, c'est pour ça que Modeste Mussorgsky était obligé de reprendre, de faire une autre version avec un grand rôle féminin. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des rôles féminins qui étaient tenus par des Françaises, Victoire Bunel, Lila Duffy, Svetlana Lifar, c'est une météo russe d'origine, mais aujourd'hui elle est naturalisée française, et Sarah Lolland, voilà. Donc c'est une distribution, mais vraiment de prise de rôle, de A jusqu'à Z, absolument incroyable, et dirigée par un chef letton. Donc voilà,
Spoga, donc qui dirigeait l'orchestre du Capitole dans la fosse.
Voilà. Et qui lui a su faire, entre guillemets, alors faut pas mal prendre ce que je dis, mais le côté un peu grinçant, sournois et sombre et terrifiant de cette partition, tel que Modeste Mussorgsky l'a écrit à l'origine.
Un petit mot sur le chœur.
Et le chœur, oui, c'est le rôle principal.
Et oui.
Et alors, ils ont été drivés par le chef de la chorale et de la maîtrise du Capitole, donc Gabriel Bourguet, mais également par Nino Pavlelichvili, qui est une pianiste qui est installée à Toulouse.
Accompagnante qui est
et qu'on ne présente plus, ici,
oui,
voilà.
Tout à fait, oui.
Et qui l'a aidé sur la fin des répétitions.
Dans la mélodie française ou pour le livre.
Voilà.
Mais il y avait une équipe de choc, aussi bien sur scène qu'en dehors. Et pour clore ce retour sur la production de Boris Godounov, très belle production de Boris Godounov au Capitole, nous allons écouter une version concert qui avait été donnée par l'Orchestre National du Capitole il y a 9 ans, et c'était sous la direction de Tougan Sokiev. Extrait de Boris Godounov dans une version concert donnée par l'Orchestre National du Capitole. C'était en février 2014 à la Halle aux Grains, sous la direction de Tougan Sokiev et avec le chœur Orfeon Donostiara. Il y avait justement une version concert d'un autre opéra à découvrir au Capitole la semaine dernière, celle du Retour d'Ulysse en sa patrie de Claudio Monteverdi, proposé par l'ensemble Igemeli, fondé et dirigé par le ténor Emiliano González Toro. Deux séances étaient programmées mardi soir et samedi après-midi. Et Robert, vous avez assisté là encore à l'une d'entre elles. Il semble que ça vous ait aussi beaucoup plu.
Oui, effectivement, j'ai assisté à la première, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors d'abord, le dire et le redire, que ce soit pour un opéra comme Boris Godounov, qui est clairement pas ni la Traviata, ni Rigoletto, ni le Barbier de Séville, hein, mais c'était plein. Eh bien, le retour d'Ulysse, un opéra baroque par excellence, hein, par
et
définition.
Qui n'est pas grand public non plus.
Hein. C'est pas grand public. Souvenez-vous, il y a quelques années, le baroque faisait demi-salle.
Ah oui, oui.
Mais là, c'était pour les deux représentations, c'était plein à craquer.
Et il faut saluer aussi la volonté de Christophe Gristy, hein, de maintenir l'opéra baroque au Capitole, ne serait-ce qu'en version concert. Il ne fait pas que ça, évidemment. C'est pas la facilité, c'est pas le choix de la facilité.
Non, voilà. Chaque fois, ce sont des paris. Alors, ce coup-ci, c'est pas la première fois que le retour d'Ulysse a été donné à Toulouse. C'était vraiment une version concert. C'était en 2007. C'était avec les talents lyriques dirigés par Christophe Rousset. Mais ce coup-ci, c'était ce qu'on appelle le semi-stage, c'est-à-dire qu'il y avait une mise en scène. Et c'était la soprano Mathilde Etienne, qui chante également, et de manière fort émouvante d'ailleurs, le rôle de Mélanto, la servante de Pénélope, qui assurait la mise en scène. Alors, donc il y avait pas grand-chose, mais il y avait quand même un jeu ciné, c'est
mise en espace. Voilà, plus que de mise en scène, mais ça veut
mise
dire
en scène,
que
c'est
au-delà de la version concert.
Voilà, ça va un peu au-delà, ça fait vivre davantage les personnages.
Ouais.
Et alors, c'est assez important parce qu'en définitive, dans cet opéra, il y a, malgré ce qu'on pourrait penser autour de Ulysse à sa patrie, quand il va arriver, Pénélope s'est tenue éloignée le plus qu'elle pouvait de ses prétendants, qui la pressent quand même de plus en plus, et puis on sait comment ça va se terminer dans un bain de sang. Hein. Eh bien, il y a des côtés comiques. Dans cet opéra, il y a des personnages vraiment comiques. Et la mise en scène, évidemment, nous les fait un peu découvrir en soulignant
le côté burlesque de la situation et des situations.
Leur personnalité, voilà. Donc,
sachant que c'est vraiment Pénélope qui, en fait, est au centre de cet opéra,
oui,
plus qu'Ulysse.
Bien sûr, bien sûr. Alors, justement, puisque vous parlez de Pénélope, merci de me tendre la perche.
Mais c'était voulu.
Mais donc, c'est une magnifique alto qui s'appelle Fleur Baron. Permettez-moi de le souligner, elle a un physique largement hollywoodien. Il faut le dire aussi, pourquoi pas ? C'est pas une honte non plus. Hein.
Ah bah mais, non,
voilà.
Et puis pour ce rôle, ça me paraît plutôt adapté.
Et pour ce rôle, ça me paraît adapté, sinon il n'y aurait pas eu autant de prétendants pour elle, quoique il courait un peu après la couronne
le
également.
Le pouvoir aussi,
voilà,
bien sûr.
Le pouvoir, voilà. Donc, enfin, pour revenir à Fleur Baron, redevenons au sérieux, Eric, s'il vous plaît. En fait, elle a un timbre, alors je ne sais pas, je vais peut-être en faire sursauter quelques-uns, mais quand je fermais les yeux, il me semblait que j'entendais Kathleen Ferrier.
Oui.
C'est vous dire, ce timbre, ce velours sombre, ces accents douloureux, mais ce phrasé, cette rondeur. Enfin, pour moi, c'est une découverte, hein, Fleur Baron.
Encore une.
J'espère que...
Il est probable qu'on la reverra
en
d'autres circonstances.
Nous reviendrons l'entendre. Ensuite, il y a la distribution, vous le savez, elle est pléthorique. Elle est tellement pléthorique que beaucoup de chanteurs chantent deux rôles.
Oui, sinon ça coûterait très cher.
Peut-être, oui, voilà. Alors, donc, il y a Emoke Barat qui chante Minerve et Fortune, Zachary Wilder qui offre son ténor absolument extraordinaire au personnage ô combien émouvant de Télémaque. Il y a Fulvio Bettini qui succède donc, faut le dire, 16 ans après, à Emiliano González Toro dans le rôle bouffe d'Hiro. Alors dans le rôle bouffe, alors il faut pas tout confondre, mais en définitive c'est un homme qui ne pense qu'à manger. Et donc il se lamente un peu sur certaines choses, si jamais cela l'empêche de garnir sa pince. Quoi, c'est un personnage très falstaffien avant l'heure. Et c'était Emiliano González Toro, il y a 16 ans, qui chantait ce rôle. Alors, Emiliano González Toro, aujourd'hui, chante le rôle d'Ulysse, bien évidemment, avec cette voix pleine de couleurs, avec ce style inépuisable. Puis, après, il faudrait les citer tous, mais enfin, on n'en finirait plus. Ce que je voudrais dire, surtout, la grande surprise pour tout le monde, c'est que nous avons entendu une version vocale, je dis bien vocale, avec des formats vocaux romantique. C'est-à-dire, nous n'avons pas entendu ce qu'on appelle les voix baroqueuses qui souvent seraient bien incapables d'affronter le 19e siècle. Hein. Donc, nous avons entendu des voix que l'on pourrait entendre dans l'opéra français du 19e ou certains opéras italiens. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de dynamique, il y a une sorte de couleur, il y a une sorte d'intensité dans le son, dans la phrase musicale qui nous fait un peu redécouvrir ce répertoire. Et ça, c'est extraordinaire.
Eh bien, c'était formidable. Et je rappelle que Igemelli et Emiliano González Toro avaient déjà donné un opéra de Monteverdi il y a 4 ans au même endroit. C'était Orfeo. Et donc, on continue avec cet ensemble vraiment excellent. Nous allons pouvoir écouter un extrait du Retour d'Ulysse en sa patrie, interprété par l'ensemble Igemelli, l'air Dorma Ancora.
Al sonno, fratello della morte, altri ti chiama. Sonno trasportato, deluso ed ingannato. Ti conosco ben io, padre d'errori, pur degli errori miei, son io la colpa. Che se l'ombra è del sonno, sorella o pur compagna, chi si confida all'ombra, perduto al fin contro ragion si ragna. Dei sempre sdegnati, nomi non mai placati, contro Ulisse che dorme ambo severi, vostri divini imperi, contro l'uman volersi fermi e fordi, ma non volvi noi me, la pace e morte.
Dorma ancora, air du retour d'Ulysse en sa patrie, interprété par l'ensemble Igemelli, qui a donc donné en version concert l'opéra de Claudio Monteverdi la semaine dernière au Capitole. Autre concert de la semaine passée, celui du guitariste Raphaël Feuillâtre, invité vendredi par la saison Toulouse Guitare à la salle du Sénéchal. Je vais en dire quelques mots, bien que le temps passe vite dans cette émission, parce qu'il le mérite, ce tout jeune musicien de 27 ans, qui fut le camarade de Thibaut Garcia au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il a présenté un programme conçu en deux sections inégales, une première constituée de pièces baroques et une seconde d'œuvres de compositeurs du XXe siècle, pour un panorama très large de ce qu'est la guitare classique aujourd'hui et le champ dans lequel elle peut s'exprimer. Nous avons donc entendu d'abord le fameux premier prélude du livre 1 du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Il a directement enchaîné cette pièce par les barricades mystérieuses de François Couperin, arrangé par Antoine Fougeret, qui a également réalisé l'arrangement de la pièce suivante, Médée de Jacques Dufly, un compositeur français du XVIIIe siècle. Voilà donc pour la première partie baroque de ce concert, qui a déjà donné un aperçu de la belle sonorité, de la musicalité et de la virtuosité technique du jeune guitariste dans ce répertoire qui, il est vrai, en réclame beaucoup. Il faut préciser que Raphaël Feuillâtre se passionne pour le répertoire baroque pour clavier, à qui il vient de consacrer un CD paru sous le prestigieux label Deutsch Grammophon, avec lequel il a signé récemment, ce qu'il fait entrer dans un club plutôt fermé. La seconde partie de son concert était la plus consistante, avec une des très nombreuses sonates de Scarlatti pour rester au XVIIIe siècle au départ. Nous avons eu droit ensuite aux variations sur un thème de Sort de Miguel Llobet, à la fantaisie sur des thèmes de la Traviata de Francisco Tárrega, à l'inévitable et très belle cathédrale d'Agustín Barrios Mangoré, à Adios Nonino de Piazzolla et enfin à une pièce de Roland Diens. Roland Diens, un guitariste et compositeur contemporain mort en 2016, qui fut l'un des maîtres de Raphaël Feuillâtre au CNSM de Paris. Tout ça a été joué avec un savant mélange d'énergie et de douceur et des sonorités sonorité parfois étonnante, proche à certains moments de ce que peut produire un vibraphone, par exemple. Bref, c'était aussi très impressionnant et ça a été très apprécié du nombreux public présent, tant et si bien que le guitariste est revenu pour donner deux bis, un choral de Bach et une autre pièce de Miguel Llobet, El Noi de la Mare. Ovation finale pour Raphaël Feuillâtre, sachant que son concert a été précédé, comme le veut la coutume de Toulouse Guitare, par une première partie donnée par un autre jeune guitariste d'origine iranienne, Amir Hossein Chebani, ancien élève de Judika Elperois à Paris et aux États-Unis, et actuellement en cycle de perfectionnement au CRR de Montpellier. Il a joué une toccata de Bach, un divertimento de François de Fossa et enfin Equinox, une pièce de Takemitsu. Belle entrée en matière offerte par ce jeune musicien à la technique déjà très affirmée. Nous allons écouter Raphaël Feuillâtre dans ses œuvres et dans Bach, dont il joue ici le premier prélude du livre 1 du clavier bien tempéré. Le premier prélude du livre 1 du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, joué par Raphaël Feuillâtre, une pièce qui apparaît sur le CD qu'il a enregistré sous le label Deutsche Grammophon. Voilà un musicien que l'on espère revoir et entendre très vite à Toulouse et avec qui nous terminons donc cette première partie d'émission. Petite pause de quelques secondes avant de retrouver Serge Chosy, Robert Pénavert et notre invité d'honneur, la violoniste Marie Cantagril. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et nous revoici pour la partie agenda de Mélomanie que nous allons consacrer essentiellement au concert que donne Marie Cantagril et son quintet de musiciens samedi 13 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, organisé par le Rotary Club, une soirée au profit des enfants en situation de handicap. Nous allons parler du programme de ce concert avec vous, Marie Cantagril. Mais avant, comme c'est la première fois que vous venez à cette émission, on va essayer de faire mieux connaissance avec vous parce que votre parcours détonne un peu dans notre région. Vous êtes installée dans l'Ariège, près de Saint-Girons. Une de vos particularités, c'est que vous n'êtes pas une ancienne élève du CRR de Toulouse, ni même du CNSM de Paris ou de celui de Lyon, bien que vous ayez décroché des premiers prix en violon et en musique de chambre en France. C'est surtout en Belgique, puis en Russie, que vous avez effectué vos études supérieures de musique. Voilà, qui n'est pas commun.
En fait, j'ai été plus attirée par l'étranger. Puis, vous savez, la vie, c'est aussi des rencontres. Et je n'ai pas décidé de faire mes études à l'étranger, en Belgique ou en Russie, plutôt qu'à Paris. Mais ça s'est passé comme ça, parce que j'ai rencontré des personnes intéressantes qui m'ont aiguillée. Et j'ai fini mon parcours à Bruxelles avec Igor Oistrakh, que je remercie d'ailleurs parce que il m'a énormément apporté. Et j'ai travaillé aussi avec Zakhar Bron, avec Zarya Chikmoursaeva à Moscou. Et donc, c'est vrai que j'ai plus baigné dans l'école russe, mais très jeune d'ailleurs, parce que ça a commencé même quand j'étais au CRR de Grenoble, d'Oubliant-de-Boulancourt. J'avais quand même toujours ces contacts, j'ai toujours eu des rencontres avec, dans les masterclass, avec des maîtres russes. Et c'est vrai que l'école russe, on peut dire que, oui, je peux dire que c'est ma ligne de conduite quand même, au point de vue onistique.
Vous avez enregistré 8 albums maintenant, tout de même.
Oui.
Vous en êtes à 8.
Oui.
Et puis, donc, l'Ariège, dont vous n'êtes pas tout à fait originaire. Alors, qu'est-ce qui vous y a amené ? Est-ce que vous avez des racines familiales là-bas ?
Ah oui, 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 si, si. Ma grand-mère paternelle est issue d'une des plus vieilles familles du Couserans, d'un petit village qui est à 3 km de Saint-Lizier et à 5 km de Saint-Giron, qui s'appelle Tourignan-Vieux. Et donc, ma grand-mère faisait partie de la famille Galli. Et quand on regarde la famille Galice, il y a 3-4 familles, 5 familles peut-être de Tourignan-Vieux. Et donc c'est une des grandes familles de ce village. Donc j'ai tous mes ancêtres qui sont au petit cimetière sur la place du village. Et j'ai surtout des maisons. Une maison puis des dépendances que d'ailleurs j'ai fait rénover récemment pour faire des locaux pour une académie. Voilà, donc je suis originaire d'ici. Donc tout naturellement, quand j'ai eu des soucis de santé, j'ai eu de gros problèmes au foie, j'ai dû tout arrêter. C'était juste après l'enregistrement du Concerto Tchaïkovski à Budapest. Depuis toute petite, en fait, c'est vraiment le lieu où on allait à toutes les vacances, où j'assistais aux veillées au bord de la rivière. Et vous savez, on a un grand Christ au bord de la rivière, immense. Et donc, il y a deux petites marches autour. Et là, il y avait les veillées villageoises. Quand j'étais enfant, j'adorais toutes ces petites histoires. Il y avait tout le monde qui se réunissait. Donc oui, j'ai été vraiment bercée par ce village, par son rythme, par son histoire. Et donc, tout naturellement, c'est ici que je suis revenue. J'ai quitté Paris, je pense que c'était il y a 12-13 ans à peu près. Je pense que j'ai dû arriver vers 2000, fin 2010, début 2011. Avec un point d'interrogation un peu sur l'avenir, en me disant est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que les médecins étaient très pessimistes. Donc il y en a même qui me donnaient 3 ans à vivre. Donc vous voyez, quand vous avez cet âge-là, c'est pas très... Bon, moi qui ai n'importe quel âge, hein, c'est l'incertitude. Et puis tout d'un coup, un grand questionnement sur qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Est-ce que j'ai fait ce que je voulais? Est-ce que si je pars apaisée? Est-ce que je n'ai pas de regrets? Voilà, bref. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel je suis arrivée. En arrière, juste après l'enregistrement de ce concerto que j'aimais tant, et que je voulais absolument faire avant de passer à autre chose. Et donc voilà, j'arrive ici, et puis en faisant mentir les médecins, je m'en sors, et je rencontre des musiciens locaux qui viennent me voir, et qui me disent « on a appris que tu étais ici, on aimerait bien que tu viennes nous voir, nous faire travailler ». En fait, c'était un petit groupe d'amis qui travaillaient avec un petit niveau, c'était chouette, mais ils accompagnaient les chorales du coin. Et donc j'ai accepté, et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, puisque ils ont réussi à me redonner de la vie, à me redonner du moral. Moi qui étais très fatiguée, qui étais très... comme vous imaginez, hein, vous arrêtez pendant 2 ans entièrement votre violon, vous ne faites plus une note, vous ne tenez plus debout, vous pensez que c'est fini, et puis tout d'un coup... Vous retrouvez dans un milieu plein de joie, plein de bonne humeur, plein d'enthousiasme. Allez, fais-nous travailler. Donc, je peux dire vraiment, en toute vérité, hein, vraiment comme ça, je peux dire que j'ai échangé ma compétence avec leur chaleur et leur amitié, et leur enthousiasme surtout, qui m'a redonné envie de jouer, qui m'a redonné envie de faire quelque chose. Et donc, de là est partie mon aventure ariégeoise. L'orchestre de chambre d'Ariège, que j'ai transformé. En fait, ce petit groupe qui s'appelait l'orchestre à cordes, je l'ai transformé en l'orchestre de chambre d'Ariège. Et on a travaillé, j'ai recommencé à faire quelques concerts avec eux. Et puis d'autres sont venus de Pau, de Bordeaux, du Capitole même, de Montauban. Donc on a créé une dynamique. Et 2 ans après, je me suis dit, mais il y avait des élèves qui venaient me voir, des jeunes. Je me dis, mais j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose pour rendre un peu ce sursis qui m'a été donné. J'ai envie de faire quelque chose d'utile. Bon, je ne dis pas que l'orchestre n'est pas utile, bien sûr, mais... Et donc, je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de concours en France et qu'il n'y en a pas beaucoup en Occitanie non plus. Et donc, je crée, avec l'association Musique et Partage en Couserans, qu'on a créé à ce moment-là, je crée le concours international de violon qui a eu un succès énorme depuis 10 ans.
Ça, c'est 2013, hein, votre concours international. Voilà, c'est ça. Et vous fêtez les 10 ans, effectivement.
C'est ça.
Et puis, vous êtes aussi très investi sur ce territoire du Couserans pour apporter la musique classique aux populations, et ça, vous y tenez beaucoup, à ceux qui n'y ont pas toujours accès. Et puis, vous donnez de nombreux concerts caritatifs. On va parler dans quelques instants de celui que vous allez donner le 13 janvier, mais ça aussi, c'est une grosse partie de votre engagement personnel sur votre territoire et un peu autour.
Tout à fait, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que même avant d'être malade, J'en faisais beaucoup, hein. J'ai fait beaucoup de causes, l'illettrisme, l'autisme, les Restos du Cœur, la Ligue contre le cancer, enfin j'en passe. J'ai toujours pensé qu'un artiste, c'était un peu son rôle, quoi, le sens de ce qu'on fait. Il y a tellement de travail, il y a tellement de recherches, tellement de sacrifices dans le métier d'un musicien classique de haut niveau. C'est tellement, hein, comment dire, un sacerdoce qu'il faut qu'il y ait du sens à ça. C'est pas seulement pour dire, regardez comme je joue bien. Ou... Alors vous allez me dire, pour partager, oui, partager bien sûr des compositeurs, partager avec un public, mais au-delà de ça, quand au-delà du partage du concert, du moment précieux que vous partagez, quand il y a une cause derrière, je trouve que ça prend tout son sens et que on est un peu là pour ça aussi, en fait, pour faire passer des messages. Et c'est pas seulement pour des levées de fonds, il y a les levées de fonds bien sûr, mais enfin, c'est pas seulement le côté financier, c'est aussi le message, c'est aussi le coup de projecteur qu'on a envie de donner sur des actions que des hommes et des femmes font et de les habiller avec notre savoir-faire, avec notre musique.
Nous allons nous pencher sur le programme du concert du 13 janvier avec vous, mais on va d'abord vous écouter une première fois dans cette émission. Vous jouez ici la célèbre Danse macabre de Camille Saint-Saëns, accompagnée au piano par Éloise Urbain. La danse macabre de Camille Saint-Saëns, jouée par Marie Cantagril, accompagnée au piano par l'excellente Éloise Urbain. Et ça, c'est une des œuvres au programme du concert du 13 janvier à Saint-Pierre-des-Cuisines. Alors, quelles sont les autres que vous allez interpréter ?
Alors, nous allons commencer la soirée par la sérénade de Tchaïkovski, magnifique sérénade. Je crois d'ailleurs, on me posait la question hier, quel est votre compositeur préféré ? J'ai dit, écoutez, pour l'instant, j'en ai deux, c'est Bach et Tchaïkovski. Donc, vous voyez, voilà. Pour moi, c'est les deux. Pour moi, hein. Bon, après, dans la vie, ça peut changer, mais pour l'instant, c'est ça. C'est une constante depuis pas mal de temps.
Ça, c'est un sujet qu'on pourra développer, mais on fera ça lors d'une autre émission.
Voilà, c'est ça. Donc, Tchaïkovski, donc cette œuvre magnifique en quatre mouvements, donc pour cordes, et ça sera original puisque ça sera en quintette. Puisque ça sera un quintet de l'orchestre de chambre d'Ariège, j'appelle le même musicien. Ensuite, nous passerons à un univers totalement différent avec Bloch, Ernst Bloch, et cette improvisation mystique qui est cette pièce appelée Nigun, qui fait partie de trois pièces et qui est une improvisation, un chant hébreu conçu pour provoquer une transe et essayer de changer un état de conscience, c'est-à-dire une recherche du divin. Et j'avais une très jolie citation d'ailleurs là sur le disque. Nous sommes en 1923, Un chant traditionnel s'élève, un nigoun en hébreu. C'est un chant improvisé, sans parole, qui transporte l'assemblée, l'exalte, le guide dans sa recherche de l'extase mystique. Les mots de Bloch, ouvrez les guillemets, « Je n'ai fait qu'écouter une voix intérieure, profonde, secrète, insistante, ardente, un instinct qui me guidait, bien plus que la raison, une voix qui semblait venir au-delà de moi-même. » Donc c'est vraiment une pièce curieuse pour certains, très forte pour d'autres. C'est vraiment une inclination à s'élever, à communiquer avec l'invisible et le divin, la recherche de Dieu en fait. Ensuite, on passe à un univers totalement, on va dire contradictoire, je ne sais pas, mais en tout cas la danse macabre qu'on vient d'écouter, de Saint-Saëns, avec l'intérêt de Saint-Saëns pour les petites énergies de la nuit, hein, de Satan.
C'était assez commun aux artistes de cette période, c'est ça, de la fin du 19e.
C'est ça. Mais c'est assez intéressant parce que y a ce qu'on voit, il y a la lumière qu'on voit, il y a la journée, et puis il y a ce qui se passe dans l'ombre et dans la nuit. C'est pas forcément quelque chose de destructeur, mais c'est là en fait. Le message de Saint-Saëns, c'est plutôt ça. Et après, au chant du coq, à la fin de la danse macabre, évidemment, tout rentre dans l'ordre.
Dans l'ordre, si on peut dire.
Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et on finira par la diabolique, là pour le coup, diabolique techniquement, hein, parce que c'est très très difficile, la diabolique fantaisie Carmen de Waxman.
Je ne le connais pas, mais bon, ça sera l'occasion.
Oui, c'est 20e siècle.
Il a
composé cette fantaisie sur les thèmes de Carmen pour Yasha et Fetz. Donc, vous voyez un petit peu.
Oui, d'accord. Donc,
un film. Et ça a été, finalement, ça a été joué en 1946, par Isaac Stern, dans le film Humoresque. Donc,
difficulté.
Après, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, évidemment, les amateurs d'opéra, peut-être, peuvent être un peu déçus, parce que quand on aime Carmen dans l'opéra. Mais je trouve que la façon dont il a agencé la virtuosité violonistique et les quelques thèmes qu'il a repris, très très connus de Carmen, moi je trouve ça sympa, vraiment bien.
Les musiciens qui vont vous accompagner, donc ce quintet extrait, si j'ai bien compris, de l'orchestre de chambre d'Ariège, qui sont-ils?
Alors le problème, c'est que j'ai toujours un problème avec les noms de famille, donc je vais vous donner leurs prénoms, puis ils seront sur le programme.
Et leurs instruments.
voilà. Donc il y a Romuald, qui est mon compagnon et qui est premier violon de l'orchestre de chambre d'Ariège. Il y a...
Ne me dites pas, vous ne connaissez pas le nom de votre compagnon.
Si, je le connais, mais si je le dis pour le premier, après c'est très compliqué de ne pas le dire pour les autres.
Oui, mais là vous seriez pardonné, je pense.
Romuald Toigo. Ensuite, une de mes grandes élèves de l'académie qui travaille avec moi depuis 10 ans maintenant, qui est une des premières que j'ai eues quand je suis arrivée, qui a un bon niveau et qui va tenir la partie de deuxième violon, qui s'appelle Enora Durando. Là aussi, je la connais bien. Ensuite, à l'alto, Pauline, que j'adore et qui vient de Paris parce qu'elle bouge beaucoup, comme beaucoup d'intermittents, beaucoup de musiciens. Mais elle vient de Paris, qui est une altiste extraordinaire, mais je ne sais plus son nom de famille. Marc-Antoine au violoncelle, pareil aussi, qui fait partie de l'orchestre depuis quelques années et qui est absolument... vraiment un super violoncelliste. Alors lui, j'ai souvent l'impression, d'ailleurs il me le dit, il pourrait me suivre jusqu'au bout du monde. Les tempis, vraiment il est assez extraordinaire. Et enfin notre contrebassiste qui est là depuis très longtemps, un des piliers de l'orchestre depuis au moins 10 ans, Jean-Michel.
Donc Jean-Michel à la contrebasse, eh bien on va vous écouter une seconde fois avec cet extrait de cette diabolique, je reprends votre adjectif, fantaisie sur des thèmes de Carmen de Franz Waxman, où vous êtes encore accompagné par Éloise Urbain.
Thank you.
Extrait de la fantaisie sur des thèmes de Carmen de Franz Waxman, interprété par Marie Cantagril, accompagnée par Éloise Urbain. C'est donc aussi une des pièces au programme du concert que vous donnez avec votre quintette de musiciens samedi 13 janvier à 20h à Saint-Pierre des Cuisines au profit des enfants en situation de handicap. Cette soirée est organisée par le Rotary Club et c'est en faveur de l'ASEI. Avant de conclure cette émission, nous avons encore deux concerts à annoncer, même trois, puisque celui de l'Orchestre National du Capitole est un double concert, jeudi 7 et vendredi 8 décembre à 20h à la Halograin. Il y a malheureusement là aussi une double défection par rapport à ce qui était annoncé au départ, celle de la pianiste Marie Joao Pires et celle de Tugan Sokiev. Serge, on l'a appris avant-hier, et donc ça va nous donner l'occasion de découvrir deux jeunes musiciens qui vont les remplacer.
C'est même une triple défection, puisque oui, à un moment, c'était Jean-Frédéric Neuburger qui devait remplacer Maria Joao Pires, et puis lui aussi a abandonné. Et donc, on aura deux tout jeunes artistes, avec d'abord le chef Elias Grandi, né de parents allemands et japonais, qui a d'abord été violoncelliste, d'ailleurs, et qui a remporté un prix prestigieux, le prix du concours international de direction d'orchestre, Georg Scholti, ce qui est vraiment un prix tout à fait prestigieux. Et puis ensuite, bien là, le pianiste qui jouera le concerto numéro 4 de Beethoven, d'ailleurs, s'appelle Mao Fujita. Comme son nom l'indique, il est japonais, il est né à Tokyo. Et donc, il a remporté le premier prix du quand même prestigieux, là aussi, concours international de piano, Clara Askill. Ça fait deux grands concours là qu'ont remporté ces deux jeunes artistes. Le programme n'est pas modifié, c'est-à-dire c'est un programme sous le signe du chiffre 4, puisqu'il y aura le quatrième concerto pour piano de Beethoven. Une pure merveille, il faut le dire. Et puis, la dernière symphonie, la symphonie numéro 4 de Johannes Brahms, qui a tellement attendu, parce qu'il n'osait pas composer de symphonie, inhibé qu'il était par la mémoire de Beethoven, qu'il a attendu assez tard pour s'attaquer au monde de la symphonie.
Et donc, il a eu le temps que d'en faire 4, c'est ce qu'on
veut
dire.
Ah oui, il n'en a fait, si l'on peut dire, que 4. Donc, et c'est la quatrième en mi mineur que l'on entendra donc sous la direction de ce jeune chef Elias Grandi.
Voilà, on aura droit à deux découvertes.
Ah oui, oui, oui.
Et ma foi, c'est plutôt effectivement intéressant pour vous faire entendre le jeu et la sonorité de Mao Fujita. On va l'écouter dans un extrait du deuxième concerto de Beethoven, j'ai pas le quatrième. Il s'agit du premier mouvement Allegro con brio. Le premier mouvement Allegro con brio du deuxième concerto de Beethoven, interprété par Mao Fujita, qui joue donc le quatrième, jeudi et vendredi à 20h à la Halograin avec l'Orchestre National du Capitole. Et puis, dernier concert à vous annoncer, celui de la saison des Arts Renaissants, mardi 12 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme, où sont réunis les chœurs Mélisme et Dulci Jubilo, une soirée de musique chorale où l'on va pouvoir entendre du Bach, du Brahms, du Mendelssohn et les créations mondiales, a priori, de pièces de Caroline Marceau et Christopher Gibert, Serge.
Oui, absolument. Alors, il y a des œuvres plus traditionnelles avec Brahms, puis Johann Sebastian Bach avec un extrait de Jesus meine Freude, donc Jésus, en français, on dit Jésus comme ma joie demeure, et puis de Mendelssohn avec Te Deum, voilà. Et puis, ces deux œuvres en création, des deux œuvres courtes, hein, une de Caroline Marceau, qui est née en 1974, ça situe sa génération. Alors là, ça s'appelle Das Nachtwandlerlied pour double chœur, donc composé vraiment pour l'ensemble des deux chœurs qui seront présents. Et puis de Christopher Gibert, donc le chef de chœur
et fondateur de
l'ensemble Dulci Jubilo, donc avec Nunc Dimittis pour double chœur a cappella, là aussi. Ces deux chœurs, donc, ils fêtent en même temps chacun leur anniversaire. Le chœur Mélisme, il a été créé en 2003.
Donc, c'est le chœur de l'Opéra de Rennes, il faut le préciser.
Exactement. Donc depuis 2016, hein, c'est le chœur de Gilda Spengier et puis le chœur d'Ucci Jubilo, dirigé par Christophe Gibert. Alors là, il a été créé 10 ans après, à 2013.
Ce sont les 10 ans. Là, oui.
Il fête ses 10 ans d'existence et donc ça va être vraiment intéressant de à la fois découvrir et d'écouter des œuvres qui vont de Bach à Brahms. Donc,
Christopher Gibert qui est né à Rocamadour, qui a été formé au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, puis après, bon, il a fait son chemin. Il enseigne d'ailleurs la direction de chœur au conservatoire départemental de Montauban. Eh bien, voici à quoi ressemble sa musique avec cet extrait de son très beau Salve Regina, interprété par le chœur Dulci Jubilo sous sa propre direction. Extrait du Salve Regina de Christopher Gibert, interprété par le chœur Dulci Jubilo sous la direction personnelle du jeune compositeur. Les chœurs Mélisme et Dulci Jubilo sont donc en concert à l'église Saint-Jérôme, mardi 12 décembre à 20h, à l'invitation des Arts Renaissants. La billetterie est en ligne à l'adresse www.art-renaissant.fr. Ce 251e numéro de Mélomanie est arrivé à son terme. Un grand merci à mes amis Serge Chauzet et Robert Pénavert de l'avoir co-animé avec moi. Et à Marie Cantagril d'en avoir été l'invitée d'honneur. Vous revenez quand vous voulez, Marie. Je rappelle que vous êtes en concert avec votre quintette de musiciens samedi 13 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est une soirée au profit des enfants en situation de handicap organisée par le Rotary Club et donc en faveur de l'ASEI. Il y a un lien direct vers la billetterie en ligne de ce concert à partir de votre site web personnel www.mariecantagril.fr. D'autre part, pour le concert de l'Orchestre National du Capitole de C jeudi 7 et vendredi 8 décembre à 20h sous la direction d'Elias Grandi et avec le pianiste Mao Fujita. Les réservations et l'achat des places sont à faire en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Et puis je signale pour finir le traditionnel concert de Noël du chœur de l'Opéra National du Capitole, samedi 9 décembre à 15h et 20h et dimanche 10 à 16h. C'est Hervé Niquet qui les dirige et il a eu carte blanche pour choisir un programme qu'il a intitulé « Mon Noël à moi » de White Christmas à Charles Trenet. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry, le réalisateur de cette émission. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à vous tous de votre écoute fidèle chaque mardi et mercredi. Je vous souhaite une excellente semaine musicale.